Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans La Chose Commune, votre magazine consacré à la transition, au développement durable et aux alternatives locales, écologiques et responsables qui essayent de donner du sens à notre quotidien. Et aujourd'hui, eh bien, un projet qui se situe un peu partout dans cette qui est complètement transversal, qui ne fait pas ni que de l'agriculture, ni que de l'artistique, ni tout ça, mais un peu tout à la fois ou tout à côté les uns des autres. Je suis avec Laura, Lola et Rémi, donc du Grand Gué, qui se situe aux confins du Loir-et-Cher, loin, plus loin que Montoire, Saint-Martin-des-Bois, dans la Pampa perchoise, on peut dire ça.
Pas très loin.
Merci. Donc on parle du Grand Gué ce matin dans La Chose Commune avec trois invités que je vais présenter, Laura, Lola et Rémi. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Le Grand Gué, donc en me renseignant un petit peu, en préparant cette émission, je me suis demandé si on pouvait appeler ça un tiers-lieu. En tout cas, c'est une ferme. Et donc, comme je le disais, aux activités tout à fait transversales. Donc, est-ce qu'on peut représenter un petit peu rapidement l'histoire du lieu, mais surtout ce que vous y faites maintenant?
Oui. Alors, le Grand Gué, c'est un lieu où il se passe pas mal de choses et qui fait vivre un peu localement le coin, ouais, autour de Montoire, où des gens se rassemblent pour faire plusieurs choses. Ils y font des répétitions de musique, ils y font des ateliers de rénovation du bâtiment, des stages de vannerie par exemple. Il y a un festival aussi fin septembre, qui vient d'avoir lieu d'ailleurs. Il y a une fête hivernale qui s'appelle le Karabunga, qui est un karaoké live. Et c'est un lieu aussi d'habitation. Il y a une colocation qui est dedans, où 7 personnes habitent sur le lieu.
Vous en êtes tous les trois des colocataires de cette habitation?
Non, il y a juste moi, je crois.
Ok. Ouais.
Nous, on gravite autour.
Ok. On gravite. En fait, c'est ça. Il y a plein de gens qui gravitent autour du lieu depuis déjà 5 ans que 2 personnes ont racheté ce lieu.
Et alors, rapidement, pour l'histoire, ces 2 personnes-là, quel était l'objectif en s'installant sur le Grand Gué?
Eh ben, en s'installant, l'objectif, c'était de plus payer le loyer et puis d'avoir son chez-soi, okay, à la campagne, et, ouais, et d'y habiter avec possiblement d'autres gens, et de laisser place un peu à une ouverture de faire des choses sur place, parce que c'est quand même une ferme qui est assez grande, il y a beaucoup d'espace et il y a beaucoup de choses à imaginer qu'on peut faire. Voilà. Et en fait, à force de nouer des liens et des contacts avec les gens du coin, eh ben, c'est ça qui a mené à créer par exemple une fanfare qui répète sur le lieu, qui a construit une salle de musique pour ses répétitions, qui a monté un festival du coup qui vient d'avoir lieu, et du coup c'est tous ces gens là qui font un peu ce lieu et cette vie sur ce lieu.
Donc il y a eu une agrégation du couple ou du duo initial,
oui,
et qui a agrégé énormément d'envie, de volonté, de talent au pluriel pour faire graviter et pour faire vivre tout ce lieu.
Et sur le duo de départ, il y a une personne qui fait du vin, qui, ouais, a ce qu'il faut sur place pour pouvoir vinifier son vin. Je ne sais pas trop quel est vraiment,
oui,
le terme technique,
chai,
mais c'est ça, il y a un chai, voilà.
Elle fabrique son vin.
C'est ça. Ouais. Et l'autre personne qui donc a des chevaux et fait de la traction animale.
Oui.
Si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. Mm. Essayer de faire des cultures pour vendre aux collectivités.
Exactement.
C'est aussi un lieu de résidence artistique, donc vous le disiez, un lieu de répétition, mais aussi un lieu de résidence artistique.
Oui, c'est ça. Il y a la fanfare qui répète un peu le mardi. En fait, elle répète tous les mardis un peu dans des lieux différents, mais quand même beaucoup sur le lieu, dans cette salle de musique qu'elle a confectionnée elle-même. Et il y a aussi, pour l'instant, il y en a eu peut-être que 2-3 de résidences de circassiens ou de fanfares qui sont venus travailler sur le lieu. Et donc du coup vivre pendant quelques jours sur le lieu en autonomie.
Donc, tu viens de citer un mot sur lequel je voulais vous questionner. Donc c'est un lieu qui vise à l'autonomie alimentaire, énergétique, tout ça. Comment ça se passe?
Alors à ce niveau-là, je sais pas. C'est vrai que dans les rêves, on aimerait bien faire des choses comme ça, mais on est quand même au début, au balbutiement.
Il y a plein de choses qui sont à nous à construire et assez nouvelles. Et pour l'instant, il y a une petite parcelle qui est utilisée sur laquelle les choses qui sont plantées par les habitants et habitantes du lieu. Mais j'ai l'impression que tout est à peu près possible. Est-ce qu'il y a une ouverture ou pas à des personnes pour venir cultiver sur place ou pas? Tout est à créer là.
Bah, je sais pas, pour moi, c'est aussi un lieu qui est important sur le territoire parce que c'est un lieu qui est aussi intergénérationnel où il y a des transmissions de savoir. Mmh. Et par exemple, il y a une volonté de lien avec c'est lié au monde agricole et en tout cas à la culture bio, c'est lié aussi à la conf paysanne parce qu'il y a des amis qui font partie de ces orgas-là et que du coup, c'est quand même une certaine projection de qu'est-ce que c'est que vivre ensemble sur un territoire rural et comment se mettre en lien. Et du coup, par exemple, là, il y a une fête ce week-end qui s'appelle la Guépaille. Et du coup, on n'a pas dit, mais il y a un énorme chapiteau de cirque aussi.
Oui,
parce
très beau
que
chapiteau.
Voilà, on c'est. Voilà. Et du coup, il y a des personnes qui sont sur le territoire depuis super longtemps, des personnes qui sont agricultrices, agriculteurs ou qui font partie d'autres secteurs. Qui sont venus aussi faire des transmissions de savoir, d'échanges sur, par exemple, on a abattu une brebis pour cuisiner un tagine à la brebis. Mmh. Et donc, il y a eu des passations de savoir autour de ça. Et voilà, ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres sur des chantiers participatifs autour de la construction et la rénovation de ce bâti avec quand même des techniques qui sont pas, on met pas des parpaings et.
Non.
Et voilà, il y a du travail du bois, enfin, il y a aussi ces choses-là. Enfin, pour moi, il y a un truc de l'intergénérationnel et de transmission de savoir qui est assez intéressante.
Qui est au cœur de la démarche.
Ouais.
Quand on vient vivre ou observer ce qui s'y
ouais.
passe.
Ouais. Il y a une tradition d'accueil parce qu'il y a des woofers et des woofing, ouais. Des woofeuses.
On rappelle ce que c'est pour les gens qui les auditeurs.
Et bah, c'est des personnes qui sont volontaires qui viennent pour donner de leur temps pour être hébergées, nourries en échange de temps passé à aider sur des projets, notamment. Surtout agricole. Voilà.
C'était bien de le représenter. Et donc, on arrive au sujet qui nous intéresse et pour lequel on vous reçoit aujourd'hui, donc, qui est le lancement d'une cagnotte en ligne pour financer des choses autour de ce grand game. Et pour financer quoi exactement ?
Et bah, ce financement, c'est quoi ? C'est qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ils étaient deux personnes à avoir acheté ce lieu. Et il y a des deux personnes qui souhaitent s'en aller et revendre sa part. Et en fait, vu que tout ce qu'on a dit, ce qui se passe dans ce lieu est là, en fait, plutôt que de trouver quelqu'un qui rachèterait la moitié, on s'est dit, et bah, autant le racheter tous ensemble, parce que c'est ça qui fait vivre le lieu aussi, c'est le collectif et tout ce qui s'y passe et tous les gens qui gravitent autour.
Oui, c'est de garder absolument cette notion collective globale, quoi. Ouais. On fait tout ensemble.
Jusque dans la propriété,
oui,
voilà, quoi.
Exactement.
Et donc, du coup, il y a eu tout un temps de réflexion d'à peu près une année, toute l'année dernière, de savoir comment on allait faire, le mode de fonctionnement, tout ça. Parce que l'enjeu, c'est aussi de se structurer un peu et puis d'organiser les choses ensemble. Et donc, du coup, le modèle qui a été choisi, c'est l'association. On a créé une association et on a décidé de faire un crowdfunding via une plateforme qui s'appelle Ulule.
L'association s'appelle l'association du Grand Gué. Histoire d'être hyper clair, l'association du Grand Gué.
Et voilà, cette campagne, elle est lancée depuis le 21 septembre. C'est sur Ulule, grandgué.fr, et vous tombez dessus. Et on compte beaucoup sur des dons de gens locaux, en fait. C'est vraiment l'idée, c'est de s'approprier le lieu aussi par les dons et par le local, en fait, parce que c'est aussi la démarche du lieu, quoi. C'est que des gens du coin qui viennent faire la fête, se transmettre des savoirs, faire des chantiers, apprendre des choses et voilà.
On reparle vite fait du chapiteau, puisque au moment où on s'est dit qu'on allait faire une émission autour du Grand Gué, j'ai regardé où ça se situait. Alors sur la campagne Ulule, on voit bien le chapiteau. Il y a une superbe vue aérienne, mais on le voit très bien depuis les satellites de Google sur Google
Maps. N'est-ce pas ?
Également, on ne voit que lui, ce chapiteau. Oui. D'où il vient ? Combien de personnes peuvent y être installées ? Tout ça.
C'est une très bonne question, ça. Combien de personnes là, moi, j'avoue, je ne sais pas trop. D'où il vient ?
Est-ce qu'on le voit de loin quand on est en voiture ?
Ah oui, oui. Ouais, on le repère.
On peut pas
c'est
le,
un
on peut
beau
pas
chapiteau carré. J'ai remarqué que cette année qu'il était carré. D'ailleurs, je pensais qu'il était rond, mais bleu et rouge. et il est magnifique. Est-ce que...
Combien de personnes peuvent être dedans, c'est ça la question?
C'est ça la question.
Donc j'ai pas compté, mais on a, il y a une fête le week-end dernier et je pense qu'il y a, de, il y a dû avoir, je sais pas, 200-300 personnes au max.
C'est pas mal quand même. Ça fait une belle salle de spectacle.
Ça fait une belle salle de spectacle.
En termes de transmission de savoir, il y a aussi des circassiens et des circassiennes qui viennent régulièrement ou qui habitent autour, et donc il y en a qui viennent transmettre des savoirs en trapèze, de, apprendre à faire du trampoline. Il y a plein de choses. En dehors des grandes fêtes, en tout cas, le chapiteau est quand même sacrément utilisé pour plein de choses.
Alors parlons de la campagne participative. Ça me fait une transition, Lola. Quand on fait une campagne participative, il y a des contreparties. Si on donne 5, 10, 15, 50, 100 euros, quelles sont les contreparties? Et notamment, est-ce qu'on pourrait avoir des cours de yoga ou apprendre à faire du trampoline si on donne un peu d'argent à Ulule et au Grand Gué?
Alors, il y a plein de contreparties différentes. Déjà, pour 5 euros, peut avoir un bisou, si consenti. Et ça, c'est sympa. Non, en termes de contrepartie, on parlait du local et des gens qui font le territoire. Il y a quand même plein de savoir-faire autour de nous, dont notamment des personnes qui savent fabriquer des couteaux et donc du coup pour un certain montant du coup il peut y avoir fabriquer son propre couteau par exemple on a décidé aussi de donner des petits noms à chaque contrepartie qui seraient des figures de GRS, comment on dit, de gymnastique, et donc s'il y a un don par exemple de 50 euros, c'est ce qui s'appelle la roue, et donc il peut y avoir un bon pour une pizza puisqu'on a quelqu'un par chez nous qui fait d'excellentes pizzas, et donc ça peut être une pizza, un numéro d'un fanzine, un fanzine qui est fait aussi par un petit collectif à Montoire, qui est vendu régulièrement sur le marché de Montoire. Donc il peut y avoir des numéros de fanzine, un CD de la fanfare qui répète régulièrement donc au Grand Gué, dans la salle de musique. Il y a aussi des bons pour des cours collectifs ou individuels de yoga en fonction de ce qu'on donne. Voilà, il y a des sites bombes artisanales, des petites bombes à graines.
Des bombes de graines, oui.
Exactement, pour pouvoir...
Non, le préciser.
Oui, voilà, non. des linogravures, il y a aussi des initiations à la grimpe d'arbres, puisqu'on a des copaines qui savent très bien grimper aux arbres dans toute sécurité. Donc voilà.
Tout ça, ces contreparties-là donneront lieu à... Enfin, se feront sur le site du Grand Gué pour la plupart. Donc.
Globalement,
pour la
oui.
Plupart, ouais, carrément.
Ouais, moi, je tout pense. À fait.
Il y a initiation cirque aussi, des cours de musique, de yoga, le couteau.
Oui, j'aimerais d'ailleurs signaler que pour un don de 20 000 euros, c'est le triple salto carpé. Et c'est donc une statue à l'effigie de la personne qui donnera 20 000 euros au milieu de la cour du Grand Gué.
Par des sculpteurs professionnels.
Mais bien sûr, voilà. C'est évident.
On a compris l'enjeu et les façons de financer à plus ou moins grande échelle. Parlant de ça, on enregistre cette émission au 1er octobre et je voyais juste avant votre arrivée qu'on est déjà à 86% du montant du premier palier, c'est déjà pas mal. La campagne de financement va jusqu'au 25 ou quelque chose dans le genre, ou même jusqu'au 30 octobre.
Ouais, je crois jusqu'à la fin du mois prochain.
Du mois d'octobre, donc. Ouais. Il y a des chances qu'il soit dépassé, ce premier palier. Qu'est-ce que vous
on
allez
espère.
Faire de l'argent?
Il faut
vous
qu'il
allez...
soit dépassé.
Vous, allez, vous allez le mettre sur un compte offshore ou comment ça va se
passer? Bien sûr, c'est évident. On est dans le collectif, mais pas trop quand même.
En fait, il y a des Ulule, on a bossé avec eux et les paliers sont assez bas en fait.
Okay.
Il faut mettre un montant très bas à avoir. Et en fait, après, il faut le dépasser de 200%, 300%. Mm-hmm. Ça peut jusqu'à 1000%, je crois. Et même plus. Et en fait, et donc du coup, le premier palier, c'est 20 000 euros. Mais nous, on espère quand même plutôt. C'est décrit sur la page, en fait, via des massages cardiaques. Il y a tout un descriptif sur les paliers qu'on décide d'avoir. Et en fait, je crois que le palier, quand même. Idéal pour nous, c'est au minimum 35 000 euros.
Okay.
Donc c'est quand même 15 000 euros de plus qu'on espère avoir en tout cas pour ça. Et à partir de ce palier-là, en fait, on peut aller voir la banque et dire voilà, on a cet argent-là, est-ce que vous nous faites un prêt? C'est comme une sorte d'apport en fait. Est-ce que vous pouvez nous faire un prêt pour le reste du montant, parce que la part est à 100 000. En fait, l'idéal, c'est quand même 100 000. Hein.
Mais, soyons, rêvons grand.
Voilà.
Et donc, avec le reste, en fait, on fait un prêt et puis on peut le rembourser via des loyers qui sont sur le lieu, de soit d'habitants, soit de gens qui travaillent.
Et donc, l'idée est restant une SIC pour l'achat de la ferme.
SCI.
Une SCI, pardon, une SCI. Ok. Ouais.
Et l'association oui. de, du coup, l'association qui s'est montée du Grand Guet mm-hmm. Rachèterait la deuxième part. Et du coup, pourrait se présenter auprès de la banque pour faire un emprunt. Et ça permettrait que le lieu perdure dans ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu ouvert, collectif, et avec une idée de développement aussi. Voilà. Et quand on parlait de local, le local, c'est pas juste Montoire et Saint-Martin-des-Bois, c'est aussi plus large. On est très liés avec, je sais pas, il y a des personnes de Vendôme qui viennent, il y a des personnes de Saint-Agile, enfin, des personnes de tout le département et même au-delà. Enfin, il y avait des personnes qui venaient de très loin aussi parce que c'est plein de réseau qui gravite aussi autour de ce lieu et donc qui est important et qu'on n'a pas envie de voir disparaître dans un territoire où il y a peu de propositions aussi pour se retrouver et faire ensemble et proposer des valeurs qui nous parlent bien d'échange, de transmission de savoir, d'agriculture bio, d'intergénérationnel, etc., etc. De solidarité en fait, c'est un lieu de solidarité quoi.
Et puis ça fait venir sur différentes technique, on a pu faire un chantier participatif pour rénover par exemple un pigeonnier tout en prenant appui sur des personnes qui savent faire, donc des charpentiers ou des charpentières. Mais du coup, y avait une vraie volonté de vouloir faire avec 100 machines électriques, de faire tout en traditionnel, de tout faire à la main. Et donc ça aussi, avec des formes un peu spécifiques, et ça a aussi amené des gens qui ont entendu parler de cette spécificité architecturale et qui se sont dit ah, on a très envie de voir, et donc ça a aussi ramené des gens pour faire des dons, ne serait-ce que pour des bouts de couverture ou des choses comme ça pour ce bâtiment, en disant mais c'est trop bien, c'est super, continuez comme ça, et il y a plein d'autres bâtiments à refaire, donc bah, du coup voilà, on va refaire des chantiers participatifs, pourquoi pas.
Comment voilà, les voisins, voisines vous regardent? Est-ce que vous avez été accueillis avec bienveillance et avec une certaine forme d'enthousiasme autour de ce projet-là sur les bâtiments, les fermes voisines, etc.?
Et bah, comme Laura disait tout à l'heure, on est amis quand même dedans. Enfin, il y a des gens qui sont dans ce collectif qui sont des agriculteurs et des agricultrices du coin. Donc il y a de ça. Après, moi, je connais pas tout. Tous les voisins, mais en tout cas il y en a qui nous aiment bien, je crois. Et sinon on est quand même en plein champ, donc il y a pas trop de voisins non plus, mais
Bah moi je peux citer un exemple ce week-end du coup pour l'événement là qui avait lieu. Il y a un monsieur que j'avais croisé à la bibliothèque où du coup la bibliothécaire faisait de la pub pour le tagine du soir en disant oh, vous venez au tagine, et du coup je dis ah bah moi j'ai participé à la fabrication de ce tagine, donc oui venez. Et il y a un monsieur qui est venu me voir en disant ah mais moi j'ai très envie de venir parce que depuis que je suis petit je connais cette ferme parce que j'habite là, mais en fait je l'ai pas revue depuis qu'elle a été rachetée, et en fait le soir on s'est recroisés, donc quand il est venu acheter, parce que j'étais au service du tagine, et quand il est venu acheter sa part de tagine, il disait ah mais je suis trop content, j'ai pu voir la ferme de l'intérieur, et ça faisait longtemps, d'habitude je la voyais depuis la route, et là j'étais à l'intérieur, et voilà. Et du coup je trouve que c'est un exemple de il y a des gens qui osent pas parce que c'est privé, mais qu'en fait c'est privé mais ça reste un lieu qui est ouvert. Et du coup là c'était une personne, je pense, qui avait bien 65-70 ans et qui était du territoire et qui n'était pas revenue sur cette ferme depuis super longtemps. Donc c'est aussi des opportunités de faire connaître le lieu, et voilà, que les gens s'y sentent bienvenus, quoi.
Super. Dernière question. Est-ce que on parle de la vidéo de promo de la campagne, ou est-ce que c'est personne ou personne n'a trop envie de dire,
je sais pas,
de raconter les secrets de cette
réalisation. Si vous voulez savoir de quoi on parle, allez sur legrandguet.fr, vous tombez évidemment sur cette vidéo.
On remettra le lien
vidéo
vers la campagne Ulule, qui donne accès évidemment notamment à cette vidéo,
voilà,
cette vidéo animalière, on pourrait la qualifier ainsi.
Bien sûr. Oui.
Qui fait référence aux musiciens de Brême, parce que c'est quand même un lieu hautement musical, le Grand Guet, où il y a quand même... Enfin, voilà, c'est peut-être pas... C'est pas beaucoup apparu peut-être dans ce qu'on a pu partager, mais il y a quand même tout un tas de gens qui gravitent dans ce lieu, qui sont
souvent
musiciens, musiciennes, voilà, et
un sous-bassophone qui traîne dans la cour,
voilà, il y a plein de cuivres et tout un tas d'autres instruments, et voilà, et la petite vidéo de campagne Ulule, elle est partie de ce conte des musiciens de Brême, quoi, et du coup il y avait les masques animaliers qui allaient avec, et c'était une manière de mettre en lumière les différents endroits du Grand Guet et ses différentes activités. Enfin, je sais pas, quand toi T'en as pensé quoi quand tu l'as vue?
Elle est un peu surprenante. Hein. On est pris par une espèce d'interrogation au début, et puis on se fait très vite à cette bande de copains. Hein. Ils ont l'air tous
super
copains, les animaux. Donc, effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez, la transmission des savoirs, le collectif à Paris, quand bien même avec beaucoup d'humour et de second, voire troisième degré, effectivement, ces thématiques-là apparaissent dans la vidéo. Est-ce qu'on a des choses qu'on n'aurait pas mentionnées qui vous semblent importantes de rajouter en cette fin d'émission?
Non, mis à part que tout et toutes les auditrices seront les bienvenues au Grand Guet sur nos prochains événements, tant que le Grand Guet existera, quoi.
Oui. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de petits dons, enfin, oui, que ça soit 5, 10, 15, 20 euros, et après si on a les moyens et l'envie de donner une centaine, voire 1000 euros, mais qu'en tout cas, il n'y a pas de petits dons, et que ça sera toujours un soutien pour le lieu, et qu'on est... On a besoin de ces, voilà, de cet élan aussi de solidarité des gens du coin pour soutenir un lieu qui a envie de continuer à être et à exister. Donc voilà, tout don est bienvenu.
Eh bien, on remettra évidemment donc sur le site de la Chose Commune, sur le podcast de l'article de la Chose Commune consacré au Grand Guet, le lien vers la campagne Ulule. Et même si le plafond, le premier palier est dépassé, notamment à l'heure où vous écoutez cette émission, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à donner. La campagne court jusqu'à la fin du mois d'octobre. Merci Laura, merci Lola et Rémi de votre participation donc à cette émission.
Merci, merci beaucoup.
Donc à retrouver évidemment donc sur la page de podcast pour toutes les informations autour du Grand Guet, donc entre Saint-Martin-des-Bois et Montoire sur le Loir. C'est à peu près ça pour le trouver. Sinon, Google Maps, vous cherchez le grand chapiteau bleu. voilà, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Chose Commune. Bonne journée à tous et à toutes sur Studio ZEF.